Dieu veut vraiment bénir. Vous ne soupçonnez pas à quel point Dieu veut déverser la puissance du Saint-Esprit sur cette ville. Les gens, ils sont là, mais vous avez vu le taux de suicide, le taux de dépression, le désarroi. Vous croyez que dans 40, 60 jours, ça va aller mieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que... J'espère que vous n'êtes pas passionné par les élections, que Dieu me garde de mépriser qui que ce soit. J'espère que vous êtes passionné par le salut des âmes. Que les gens soient à droite, que les gens soient à gauche, que les gens soient aux extrêmes, que les gens soient au centre. Dieu ne nous demande pas de prendre position pour un parti ou pour un autre. Dieu nous demande d'aimer tous les hommes. Et veillez à ne pas justement vous faire piéger quand j'entends comment certains chrétiens parlent du président de la République. Mes frères et sœurs, la Bible le dit, honorez tout le monde, tous les hommes, le roi, les présidents, les gouverneurs. C'est écrit ou c'est pas écrit? On veut le réveil et on se fait piétiner, attaquer par ces situations? Mes frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu qui veut que nous ressemblions au monde. Merci, qui nous ayons la mentalité du monde. Dieu veut, mes frères et sœurs, Dieu veut bénir votre famille, votre foyer, vos enfants, tous les rétrogrades. Dieu peut tout faire, il peut tout remplacer, il peut tout changer, mes frères et sœurs. Il peut changer le mal en bien en quelques jours, en une réunion. On peut voir plus qu'en 20 ans de travail effectué par nos forces personnelles. Et vous savez que c'est vrai, car vous avez certainement fait déjà certaines expériences. Vous vous rappelez l'année de la mort du roi Ozias? C'est terrible la mort d'un roi, parce que les ennemis le savaient et ils s'apprêtaient bien sûr à attaquer, vous savez. Et Esaïe était dans le temple. Et il était dans le temple et il priait et il répandait son cœur devant Dieu. Et Dieu lui est apparu. Dieu s'est révélé. Et la question que Dieu lui a posée après lui avoir touché les lèvres, c'est « Mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Et qui marchera devant nous ?» Il parle au pluriel, la Trinité est incorporée dans la question. « Qui marchera devant nous ?» Il n'a pas dit devant moi, devant nous, pour que la bénédiction se mette en marche. Il faut des hommes qui se lèvent, et c'est mon titre de ma prédication. Mais qui enverrai-je? Qui pourrais-je envoyer? Hier, j'ai lu les arts, hier j'étais énormément travaillé. Moi, vous savez, je prépare mes prédications, je le fais sérieusement, consciencieusement. Mais toute la semaine, après ces appels téléphoniques, je sais que dans les prochaines pastorales, on va évoquer le fait qu'il y a des églises, il n'y a plus de pasteurs. Il y a des églises, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'anciens. Et ces églises sont en train de se vider. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les églises se vident? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont renoncer à eux-mêmes parce que la condition sine qua non, elle est là. Il doit y avoir un renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il ait des talents, qu'il ait des diplômes, qu'il soit bachelier, qu'il soit capable, qu'aujourd'hui on cherche des gens qui aient beaucoup de qualité. Ah, celui-là il parle bien, celui-là il s'exprime bien, alors on pourrait l'utiliser comme prédicateur. Tiens, quand il parle, ça, il parle bien ce gars. Frères et sœurs, tant mieux si le gars il parle bien. Mais on n'a pas besoin de gars qui parlent bien. On a besoin d'hommes et de femmes qui soient remplis du Saint-Esprit, d'hommes et de femmes qui aiment les âmes. Où en sommes-nous du fardeau des âmes? Cette semaine, avons-nous eu le fardeau des âmes? Je ne sais pas, si vous avez lu le bulletin de serviteurs de Dieu que M. Olé met en place, vous avez vu ce qui se passe au Soudan, vous avez vu ce qui se passe au Nigeria. Il y a des choses terribles qui se passent, vous le savez. Et nous sommes là ce matin, nous avons un culte. Est-ce qu'alors, bien sûr, il y a un culte, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit bien truc. Et c'est vrai, il faut le faire comme il faut, de 9h30 à 11h30. Il faut respecter, moi j'aime l'ordre, et j'aime la bienséance. Et ça ne me gêne pas du tout l'organisation, tout ça. Ça me va très bien. Le problème, il n'est pas dans l'ordre. Le problème, il est dans le renoncement et l'obéissance. Et les hommes que Dieu a choisis, les mouvements qui se sont soulevés, qui se sont présentés, parce que des hommes et des femmes ont cherché à être remplis du Saint-Esprit. Oui, Dieu nous a bénis. Et croyez-moi que Dieu continuera à nous bénir encore. Vous savez, Dieu fait grâce. Vous le savez qu'il fait grâce. Dieu continuera, il pourvoira. Vous croyez que vous avez un Dieu qui fait du chantage? Ah, si tu ne te lèves pas, je vais couper le robinet. Vous avez vu Dieu parler comme ça dans la Bible? C'est vrai que Dieu peut permettre des épreuves pour nous amener là où il veut. Ça, c'est vrai. Mais Dieu est un bon Père céleste. Qui prend soin de ses enfants, il fait briller le soleil sur les méchants et sur les bons, alors à combien plus forte raison sur ses enfants qui sont véritablement soucieux de connaître sa volonté. Mes frères et sœurs, Dieu veut que des hommes se lèvent. Écoutez, je vais vous le répéter, je vais peut-être vous fatiguer, mais je veux vous dire ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Il faut, c'est un impératif, que des hommes se lèvent. Dans l'Église primitive, vous connaissez le premier problème qu'il y a eu à l'Église primitive. Le premier problème de l'Église primitive, c'est que les veuves étaient négligées. Vous savez, il y a eu un problème avec les Juifs, avec les Grecs. Vous savez ce que c'est ? Bon, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur ? Vous vous rappelez ce qu'il a dit ? On le lit ? Lisons-le quand même, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas peut-être les veuves qui sont négligées, mais c'est les églises. Et il y a des églises qui sont véritablement veuves, croyez-moi. J'espère que vous comprenez l'image. Actes chapitre 6, il y avait un problème avec les veuves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au verset 2. Actes chapitre 6, verset 2. Ce sont des choses, vous le comprenez, elles ont été écrites pour que nous puissions nous aussi savoir comment faire pour régler les problèmes. Oui, ce n'est pas les veuves. Je l'espère que les veuves ne sont pas négligées, nous en prenons soin. Acte 6, verset 2. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et les tables, c'était pas eux qui... En plus, le mot là, c'est trapézoï, c'est un mot qui signifie la banque. Ce n'est pas un mot qui signifie les tables, vous voyez, le service barman. Ce n'est pas ça. C'est les tables. Donc, c'était la fonction de trésorerie, en vérité. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. Alors, comment il fallait qu'ils soient ? De qui l'on rende un bon témoignage. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, pour... Déjà, la trésorerie de l'Église, Dieu demandait que ces hommes-là soient, donnent un bon témoignage, soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres et qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et bien sûr, Dieu bénissait cette affaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas laissé les ministères s'occuper de tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs, ce sont des hommes orchestres aujourd'hui. Mais pas moi. Je sais, par la grâce, je ne suis pas dans ce cas-là, je ne me plains pas, au contraire, je sais que tous vous comprenez qu'un pasteur il doit s'adonner justement à la prière et au ministère. Bien sûr, je dois faire quelques visites et c'est important que je garde le contact avec les gens de l'Assemblée, ceux qui sont faibles, ceux qui ne peuvent pas venir. C'est mon devoir de faire certaines visites. Je ne suis pas un homme orchestre, j'exerce mon ministère, mais si vous voulez, je ne prêche pas pour moi. Je suis en train de penser à cette souffrance qui est en train de se développer de plus en plus dans les églises et nous ne pouvons pas y être insensibles. Vous voyez, lorsqu'il y a eu ce problème, c'était un problème matériel, il fallait quand même s'occuper des veuves. Mais moi, je vous le dis, il faut que nous nous occupions des églises. L'Assemblée de Sainte-Agne est capable de s'occuper, parce qu'on nous demande de l'aide, on nous crie à l'aide. Alors financièrement, bon, on le fera si on peut. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour que nous nous occupions spirituellement de ces églises ? Et hier, je réfléchissais sur cette affaire. Est-ce qu'on peut, envoyer des prédicateurs, des anciens, des frères ? Eh bien, regardez, par exemple, dans Actes chapitre 11. Regardez ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que nous fassions les choses de la façon la plus biblique qui soit. Et hier, je méditais justement le livre des Actes, parce que c'est le livre qui nous permet de comprendre comment doit fonctionner l'Église aujourd'hui. Actes chapitre 11. Regardez, on va prendre le verset qui nous intéresse, verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc c'est un frère de Jérusalem. Et il l'envoie où ? À Antioche pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Alors regardez, les qualités. C'était un homme de bien. Un homme de bien, ça veut pas dire un homme riche. Hein, qui avait une bonne réputation. Qui rendait un bon témoignage. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Vous voyez, on voit comment Dieu... Je ne sais pas si à Antioche, il y avait des frères. Il devait y en avoir. Mais en tous les cas, Dieu a pris quelqu'un de Jérusalem pour l'amener s'occuper de l'Église d'Antioche. Je pensais hier à notre frère, monsieur de Dieu, je le cite parce qu'après tout c'est vrai, notre frère pendant 8 ans, tout en travaillant, sur les chantiers, et à l'époque vous ne faisiez pas 35 heures par semaine, je le dis parce que c'est, je crois qu'il faut le dire, c'est pas pour jeter des fleurs aux frères, mais je le dis, quand on connaît le témoignage de certains frères, qui faisaient des heures supplémentaires la semaine, plusieurs parmi les anciens, pour pouvoir aller faire les travaux de l'église le samedi. Quand vous écoutez leurs témoignages, on se demande, mais pourquoi il y a eu certaines choses? Eh bien, parce qu'ils ont renoncé. Ils ont renoncé à eux-mêmes, et ils ont dit, voilà. À l'époque, on travaillait le samedi, il y a 40 ans ou 50 ans. Et les frères, ils travaillaient, ils faisaient une heure de plus le soir, ou une heure et demie de plus, pour pouvoir venir faire les travaux à l'église, avoir des beaux lieux de culte comme nous avons aujourd'hui, partout, que ce soit ici, à Castres, à Muret, et ils vous l'expliqueront. Et j'ai pas du tout l'intention, je pourrais le dire après sa mort, ça serait bien après votre mort, hein. Mais je veux dire, on peut le dire du vivant, je crois pas que notre frère va s'enorgueillir. Je le crois pas du tout, sinon je le ferai pas. Mais mes frères et sœurs, pendant 8 ans, il a été à Pamiers. Vous alliez 2 fois par semaine, non, le dimanche. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, le dimanche matin et le dimanche après-midi. Et l'évangélisation avec le petit David et la petite Aurore sur les genoux. C'est ça ou c'est pas ça, hein? Mais mes frères et sœurs, ils ont gagné des âmes. Ils ont gagné des âmes. Et je me pose la question, est-ce qu'il faudra, comme dimanche dernier, envoyer Monsieur de Dieu encore? Soyons sérieux. Monsieur de Dieu a été dimanche dernier à Lavelanet. À Auch. À Auch, hein? Sérieusement. Sérieusement. On est devant Dieu. Dieu regarde à votre cœur, croyez-moi. Et au mien. Est-ce que c'est de mon ressort? Je sais qu'il le fera. J'ai demandé à un jeune d'accompagner Monsieur de Dieu. Mais est-ce que c'est sérieusement? Est-ce qu'il faut demander à des hommes de plus de 80 ans de continuer à parcourir les routes pour aller prêcher l'évangile? Je sais qu'il le fera. Sérieusement. Est-ce que devant un besoin immense, et justement, faisons attention, c'est pas parce que notre église est bénie que nous devons négliger les églises à côté. Justement, le trésorier, son fils me disait, il y a un mois ou deux, on parlait, parce qu'on en parlait avec Monsieur de Dieu David, par rapport à l'église, à l'argent, etc. C'est un sujet sérieux, l'argent de l'église. Et il me disait, mais la plus belle des choses qu'on pourrait faire, c'est déjà de sauver toutes les églises qui existent. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Et Dieu nous bénira. Et puis, il ne faut pas le faire pour la bénédiction. La bénédiction, c'est d'obéir à Dieu. La bénédiction, c'est de se consacrer. La bénédiction, c'est d'être à ses pieds et d'avoir cette assurance, comme on l'a chanté. Car je ne suis pas du tout sûr que tout le monde peut chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». Je ne suis pas du tout sûr. Est-ce que ce n'est pas à nous de prier et de faire en sorte qu'on se lève? Vous savez... Hier, j'ai prié. Vraiment, j'ai prié. Je ne veux pas parler de moi-même. Je n'ai pas envie. Je sais que Dieu ne bénit pas ce travail-là. Hier, je pensais à Groyer. Vous savez, il y a 23 ans, on m'a demandé de m'occuper de Groyer. C'était une église, on ne pouvait pas me payer. Il n'y a pas d'argent. Quand je suis arrivé, on m'a dit, écoutez, on ne pourra pas vous payer. On doit de l'argent au pasteur. Et à Isabelle, on a dit, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Dieu a pourvu. Je crois que Dieu pourvoit. Et on fait des expériences qu'on n'oublie jamais. Et quand cette église, je vois notre sœur Sylvie Fagé, au fond, elle doit s'en souvenir, cette église était en déliquescence. Mais il y avait 25, 30 personnes. Et voyez ce qu'on a fait. Moi, je ne savais pas quoi faire. Je voyais que cette église dépendait de la mission intérieure depuis des mois, des années même, des années. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens étaient découragés. Et je savais bien que c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'il est hors de question de tomber dans la sinistrose et la défaite. N'oublions pas que nous avons Dieu qui a toutes les solutions pour tous les problèmes. Je ne suis pas en train de faire un constat négatif, je suis en train de vous expliquer certaines choses pour que nous réagissions, comme c'est biblique. Et nous avons jeûné, nous avons prié. Et nous avons fait 2 choses. Je me rappelle un dimanche pendant que je prêchais, J'ai dit, écoutez, on va arrêter de recevoir de l'argent. On va arrêter. J'en étais convaincu, j'avais prié, je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Et je voyais le trésorier qui me regardait. On va donner. On va commencer à donner. Et on a donné à l'époque 100 francs à l'action missionnaire. À l'époque, il y avait l'action sociale à mission. 50 francs à l'AEP. Il y a un frère du conseil qui m'a dit, monsieur Gou, ça va faire ridicule d'envoyer des sommes comme ça. Peut-être aux yeux des hommes, mais je ne crois pas aux yeux de Dieu. Et on a commencé comme ça. Et on a mis le mardi soir à 7h30, à 19h30, comme ici, un jeûne et prière. Et on était 30 au culte. Et le mardi soir, à 19h30, quand on commençait la réunion, il y avait 25 chrétiens sur les 30 qui venaient supplier Dieu de faire quelque chose. Et le résultat, c'est qu'en 3 ans, dans un petit village, nous sommes passés de 30 membres à 130 sans faire aucune mission d'évangélisation. Et l'argent, nous l'avons mis de côté et nous en avons envoyé à la mission un peu partout. Et Dieu nous a bénis. Ce que Dieu a fait dans un petit village, et c'était la crise, partout dans toutes les rues de Groyer. Il y avait des panneaux à vendre, toutes les usines fermées. On me dit, mais monsieur Gou, on ne peut rien faire, les usines ferment, toutes les maisons sont à vendre, et ceci et cela. Mais vous croyez que franchement, la foi, ça dépend des usines qui sont à vendre? Vous croyez que la foi, ça dépend de la crise financière? Et qui sait si Dieu ne permet pas une crise financière pour que des gens se tournent vers Dieu? Moi, vous croyez que Dieu, il se tient la tête, il s'arrache les cheveux en disant, mais comment je vais faire cette crise à Athènes, ces élections en France, mais qu'il faut mettre? Vous croyez que Dieu, il règne sur son trône. Il a toujours régné. Lors du déluge, il a dit qu'il était sur son trône et qu'il régnait. Aujourd'hui, 26 septembre 2012, oui, 26 février, il règne. Il règne. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu règne. Mais comme ces veuves étaient négligées, des églises autour de nous sont malheureuses. Alors moi, je bénis Dieu, mais je ne veux pas m'occuper que de moi. Bien sûr que nous nourrissons des milliers de gens. Hier, j'avais des mails des États-Unis, d'Afrique, et nous recevons et des encouragements. Merci, Master Go, pour vos prédications, etc., etc. Merci, on m'envoie de l'argent. Quelqu'un de New York, il me dit, Monsieur Go, je vais vous envoyer des sous parce que vous avez à cœur de former des serviteurs de Dieu. C'est bien? Il y a des gens à l'extérieur qui ont à cœur que je forme des pasteurs, que nous formions des pasteurs, parce qu'un pasteur sauvé, c'est une église qui est sauvée. Et il faut que nous nous réveillions. Alors c'est vrai qu'il y a des critères. Lorsqu'ils ont choisi les diacres de l'église primitive, c'était des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que cet enseignement ce matin ne s'éloigne pas trop de la vie de l'Esprit. Parce que de toute façon, Dieu cherche des hommes et des églises qui soient remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, elle se fait. C'est comme ça, elle se fait même à notre dépens. Elle se fait parce que le train est sur les rails et il avance. Alors choisissez des frères. Alors attention, parce que souvent les gens sont dans la confusion. Je répète, ça doit venir de moi qui n'enseigne pas suffisamment. Je le pense. Il y a des frères qui sont appelés par Dieu au pastorat. Peut-être quelqu'un est dans ce cas de figure. Venez me trouver. Si vous ressentez l'appel au ministère, ce n'est pas à moi de vous courir derrière. C'est à vous de venir me trouver et on fera le point la journée s'il faut, car ce n'est pas une sinécure d'être pasteur. C'est quand même une responsabilité. Je pense que vous le savez. Voilà, si vous avez reçu l'appel, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas des années. La prophétie à qui s'adressait tout à l'heure celui ou ceux ou celles qui ont enfoui le talent, repentez-vous. Ne perdez pas des années. Car s'il y a bien une chose que le diable veut faire, c'est que nous nous promenions dans ce monde alors que les pécheurs sont en train d'aller en enfer. Non, mes frères et sœurs, nous avons été appelés par Dieu. Vous vous rendez compte où nous serions si on n'a pas été sauvés? Où vous seriez? Où vous seriez ce matin? Où vous seriez, monsieur Gaillard, si vous n'étiez pas converti? Où vous seriez? Où vous seriez? Vous seriez presque tous, nous serions presque tous, vous savez où? En enfer. Parce que si Dieu ne nous avait pas gardés, si les anges ne nous avaient pas protégés, alors que nous étions contre Dieu, si les anges ne nous avaient pas protégés, parce que c'est écrit, nous serions tous en enfer. Et Dieu nous a gardés, il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a donné une assemblée, où on est bien dans cette assemblée. Je pense que j'invente rien. Nous sommes heureux dans cette assemblée. Mais voilà, il ne faut pas se congratuler et devenir des vaches grasses. Il faut, mes frères et sœurs, que nous devenions des serviteurs utiles. Il y a des églises autour de nous et moi je suis prêt à m'investir encore plus pour former des anciens, des pasteurs, vraiment avec l'aide de Monsieur Olé. D'ailleurs, les réunions que nous avons le samedi matin, nous allons l'ouvrir à tout le monde, non pas qu'aux frères qui auront des responsabilités, aux animateurs, aux animatrices, aux sœurs qui veulent s'approfondir dans la doctrine. Car l'enseignement de Monsieur Olé est d'une telle richesse qu'on ne peut pas le cloisonner à quelques frères qui auront des responsabilités. Donc ça sera ouvert à tous les frères, à toutes les sœurs qui veulent avoir une saine doctrine. Parce que pour que Dieu bénisse, il faut également honorer la saine doctrine. Car c'est écrit que si on n'honore pas la doctrine, Dieu ne nous honorera pas non plus. Ne rêvons pas, il faut être formé. Jésus a passé 3 ans et demi avec les 12. Il les a pris pour les avoir avec lui. Et moi je voudrais même choisir des frères. Peut-être je vais venir vous voir. Ne le prenez pas mal, peut-être que Dieu me mettra à cœur certains frères pour venir vous désigner avec l'accord des anciens pour vous aider. Peut-être que ça ne marchera pas, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Que des frères se lèvent, que des jeunes préparent des cantiques, et lorsqu'un frère va à Pamiers ou à Nogaro, voyez, où il y a 20 chrétiens depuis 20 ans, ils ne sont qu'une vingtaine, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'un jeune se lève et qu'on aille l'aider le dimanche, 3 dimanches par mois? Les pasteurs, ils attendent que ça. Il me dit, mais Monsieur Gou, vous avez pas des frères qui pourraient venir nous aider? Vous n'avez pas des jeunes de temps en temps qui pourraient venir chanter un cantique sur la croix pour encourager les 20 pépés et les 20 grand-mères qui restent? Est-ce qu'il ne faut pas les soutenir, ces 20 grand-mères? Ou est-ce qu'on dit, faut que dire, bon, de toute façon, elles vont bientôt mourir, elles sont vieilles. Peut-être que si on est là, c'est grâce à ces mémés. Vous ne croyez pas que si on est là ce matin, c'est grâce au pépé et au mémé qui priaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, pour que des hommes se lèvent. Et aujourd'hui, qu'on est sauvé, on va laisser ces veuves, ces églises qui sont veuves, on va les négliger, on va dire, mais c'est bien, c'est bien. Non, moi je crois qu'il y a des frères, je pourrais presque les désigner dans l'église, qu'il faut choisir. Et c'est pour ça que vous devez avoir ce devoir de vous appliquer à être rempli du Saint-Esprit. Barnabas, c'était un homme de bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de se soucier. Quand on l'envoyait quelque part, on savait qu'il faisait bien son boulot, on faisait bien son travail, il rendait un bon témoignage, il n'y avait pas besoin de se casser la tête, parce que vous savez, des farfelus, il y en a. Des farfelus, il y en a. Regardez un peu plus loin. C'est important de le voir. Regardez par contre, c'est où qu'il y avait des farfelus, hein? Regardez. Dans Actes chapitre 15, là aussi, vous voyez, ils ont choisi 2 frères de nouveau pour envoyer à Antioche. Parce qu'à Antioche, il y avait oui, je le dis, c'est des farfelus, des faux docteurs, des faux prophètes qui avaient troublé l'église. Regardez, acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église, qu'il en soit ainsi aujourd'hui, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude, appelé Barsabbas, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes parmi de chez vous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Voyez ? Et la fin, on peut lire juste un verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ils avaient été troublés par des pasteurs qui n'en étaient pas, des gars qui s'étaient bombardés eux-mêmes pasteurs, des gars qui s'appelaient... Voilà, ils avaient troublé l'église. Et nous devons veiller à cela. Parce que laissez-moi vous dire, dernièrement, il y a un monsieur qui est venu me voir pareil. Il me dit, Monsieur Gau, voilà, je suis pasteur, embauchez-moi, je voudrais avoir une formation pastorale. Je dis, mais d'où venez-vous? Ben, d'Afrique. Et de quel mouvement? Ah non, je n'ai pas de mouvement. Mais de quelle église? Ah ben non, je n'ai pas d'église. Mais qui c'est qui vous appelait? Ben, le Seigneur. Vous remarquerez dans les apôtres, dans les actes, que tout le temps, il y avait l'approbation de l'église, des anciens, des apôtres. Le Seigneur, il fait les choses avec beaucoup d'ordre. Personne ne s'improvise serviteur de Dieu. Il doit y avoir une formation. Ces hommes étaient considérés. Voilà. Et Dieu les a envoyés par le biais des apôtres, par le biais de l'Église, dans des églises, faire du bien un certain temps. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si nous le faisons, le Seigneur va nous bénir. Mais ça va demander de l'organisation. On ne peut pas faire ça à l'aveuglette. Et il faudrait que des frères... Alors moi, j'ai pensé à quelque chose. Vous voyez, j'ai pensé à quelque chose. On ne peut pas multiplier les réunions non plus. Mais j'ai pensé vraiment à quelque chose de sérieux. Le jeudi après-midi, le jeudi soir, nous avons 2 réunions. De réunion, nous sommes d'une trentaine l'après-midi et un petit peu pareil le soir. Je me suis dit, il y a des frères qui commencent à prêcher. L'autre jour, j'ai demandé à Alexandre, qui n'est pas là, il est en vacances ce week-end. Il a reçu quelque chose dans son cœur. C'est un gars pour qui vous devez prier pour lui. Il y a des frères, je pense à notre frère Brice, qui a reçu aussi quelque chose, et d'autres dans l'église. Et je voudrais que nous puissions, par le biais de ces réunions, être là, écouter ces frères, leur demander de prêcher la parole. Vous comprenez? Parce que pour les sonder, pour les aider, le jeudi soir, peut-être de 7 à 8, avoir un moment avec ceux qui veulent s'impliquer dans ce travail, car il y a quand même une implication personnelle. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. C'est un désir. Là, ce n'est pas un appel au ministère universel comme pasteur, car Dieu m'a mis là, mais il peut me déplacer. Mais il y a les ministères intramuros, les ministères locaux. Et ces ministères-là, bien sûr, il faut les former. Alors pour ne pas multiplier les réunions et les soirs de réunion par rapport rien qu'au parking, cela ne vaudrait pas la peine que nous y réfléchissions et que nous disons voilà. Moi, il y a des pasteurs, je lui dis, monsieur Gau, l'an prochain, envoyez-moi 3 dimanches par mois, un pasteur. L'église ne va pas. Alors est-ce qu'on est prêt à relever ce challenge? Est-ce qu'on est prêt, mes frères et sœurs? Ça va nous coûter de l'argent, mais on l'a l'argent. Et on continuera, je crois, à être motivé. Est-ce que ça vaut la peine quand on passera devant Dieu? Est-ce que ça vaudra la peine quand on passera devant Dieu d'avoir travaillé pour soutenir des églises qui sont entre guillemets veuves? Est-ce que ça vaut la peine, mes frères et sœurs? Et c'est pour cela qu'il faut rechercher la vie de l'Esprit. On ne peut pas considérer le service de Dieu sans la vie de l'Esprit. On en a parlé mardi. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, à Éphèse. Quand il est arrivé à Éphèse, il leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru, et c'était des disciples, des vrais disciples, qui étaient convertis, mais pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas pourvoir à tous ses besoins par un élan de cœur, c'est bien, ah, ce qu'il a dit c'est vrai, il faut le faire, voilà. Alors je sais que niveau financier, on va faire quelque chose, on va aider, et le pasteur va me remercier, il va remercier l'Église, mais il ne faut pas faire que du ponctuel, il y a un travail à long terme. Par exemple, Jérémy, qui est ce matin à Balma, on en a parlé longuement. Il m'a dit, mais moi, monsieur Gau, il est gentil ce petit. Il me dit, monsieur Gau, je suis prêt à partir à Nogaro, pour rien, même si je n'ai pas de salaire. J'ai dit, mais écoute, il faut finir ta formation d'abord. Mais 3 dimanches par mois, il y a de très fortes chances qu'il aille soutenir cette église. Il y a été, je dis, ça leur a fait du bien, il y avait même des nouveaux. Comme par hasard, il y avait 3 nouveaux. Qui était là, et il a passé l'après-midi là-bas, la soirée, ils ont été chercher 2 ou 3 grammaires, ils ont fait la réunion, et il m'a dit, mais je vais y aller, est-ce que ça vaut pas la peine qu'on soutienne des jeunes pasteurs? Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est pas chanter des beaux cantiques le dimanche matin. J'espère que vous en êtes tous conscients. Vous êtes d'accord? L'œuvre de Dieu, c'est pas une assemblée locale où un pasteur s'applique à vous prêcher, sérieusement. L'œuvre de Dieu, c'est le fardeau des âmes. L'œuvre de Dieu, c'est le renoncement. Apprendre à renoncer. Je vous ai parlé de Groyer, et c'est vrai, peut-être plus qu'aujourd'hui. J'avais, avec mon épouse, on avait renoncé à tout. Et on a vu Dieu bénir. Quand je vois aujourd'hui les jeunes, il y avait une dame, cette semaine, nouvelle. Elle a demandé à plusieurs personnes, est-ce que vous pouvez me ramener chez moi? Est-ce que vous pouvez me ramener chez moi? Non, je ne peux pas. Alors moi, je n'ai pas jugé. Et je l'ai ramené chez elle. Mais voyez, mes frères, je crois que quand on veut servir, quand on chante, on pourrait remettre les paroles, on dirait maintenant, on est loin. Je crois que Dieu peut nous éprouver. Et que Dieu peut demander à quelqu'un de vous ramener chez lui. Est-ce que ça ne commence pas comme ça, le service? Je vais vous poser la question. Si Jésus lui-même était là ce matin, ou l'apôtre Paul, tu aimes là, que l'apôtre Paul, que Paul, et Silas. Et s'il vous disait, tiens, Madame Régnier, est-ce que vous pouvez m'amener à l'aéroport? Est-ce que vous le feriez? Et même si vous habitez à Castanet, est-ce que vous diriez à l'apôtre Paul, écoute, tu sais, moi, tu ne connais pas Toulouse, mais moi j'habite de l'autre côté. Alors écoute, tu regardes, il y a un gars là-bas, il y a Claudine, elle habite à... Est-ce que vous le feriez? Répondez. Et je vais vous dire, quand on sert Dieu, Dieu nous éprouve. Quand je vois des jeunes capables de rester sur leur console, leur PlayStation, des heures, alors qu'il y a une réunion où il y a des nouveaux qu'il faut accueillir des fois, ne me dites pas qu'on peut chanter aux femmes, consacre-toi, consacre, je me consacre à Dieu. Non, il faut être, ou alors il faut arrêter de chanter. Mais je crois que nous avons un Dieu qui est grand et qui est capable de tout effacer. Nous avons un Dieu qui ne nous punit pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Mais ce n'est pas parce que nous avons un Dieu bon qu'il faut rester enfermé dans cette désobéissance et dans cette paresse. Je crois qu'il faut que nous disions, mais c'est vrai, je veux renoncer à moi-même. Ça passera par là, ça passera par l'obéissance. Mes frères et sœurs, il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Regardez le témoignage de Timothée, pour ceux qui prennent des notes, ne le lisez pas, acte 16, versets 1 et 2. Il lui a été dit de ne pas négliger le don. Il avait une foi sincère, il connaissait les saintes écritures, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu a utilisé ce jeune homme pour en faire un serviteur dont on parle encore aujourd'hui. Il avait une foi sincère. C'est important d'être vrai. Quand on chante quelque chose qu'on ne vit pas et qu'on s'en fiche, on n'est pas sincère. Les chants, ça nous permet de nous remettre en question, oui ou non, sérieusement. Et si je chante « Homme de foi, lève-toi », moi, je n'ai pas pu le chanter ce matin. J'avais cette conviction qu'on dit des choses qu'on n'arrive plus à vivre. Et ça va nous jouer des tours, parce qu'on va s'endurcir. Et on va se faire croire, comme les chrétiens de la Odyssée, que ça va bien. Et ce n'est pas parce que l'Église va bien au niveau matériel, etc., que spirituellement, elle va bien. Il faut que nous nous ressaisissions et que nous disions, voilà, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que je connaisse les Saintes Écritures. On a des gars qui veulent prêcher, on leur dit, vous lisez la Bible. Ah non, moi la Bible, c'est pas mon truc. Non mais, sérieusement, quand vous voyez des gars qui veulent être serviteurs de Dieu et qui ne croient pas dans l'inspiration des Écritures. Oui, bah, vous savez, je crois en Dieu, mais vous savez, l'histoire de Job, c'est une légende, pasteur. Frères et sœurs, les hommes que Dieu choisit, les hommes qu'on doit choisir, nous, il y a ce que Dieu choisira, il y a ce que l'Église peut choisir. Et c'est pour ça que la piété de chacun doit monter pour dire, tiens, monsieur Gauss, ce garçon, il a quelque chose, vous devriez peut-être le faire chanter un cantique. Monsieur Gauss, vous devriez peut-être, tiens, ce jeune-là, j'ai discuté avec lui, il m'a fait un bon effet. On a eu une discussion vraiment pieuse, vous pourriez peut-être lui demander de présenter la Sainte-Seine. Peut-être que ça ira pas, mais est-ce que ça vaut pas la peine de commencer à choisir des frères qui, à tous, ensemble, on va être remplis du Saint-Esprit. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, Dieu veut bénir l'Église. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je crois que ça vaudrait vraiment la peine d'obéir à cette prédication, de sentir l'appel de Dieu. Vous vous rappelez quand Samuel pleurait, Samuel c'était quand même quelqu'un. Et il pleurait parce que Saül avait été rejeté à cause de son égoïsme, à cause de son esprit malade. C'était un malade, Saül. C'était un malade. Il s'accrochait à sa royauté, il s'accrochait à son titre, et surtout plein d'égoïsme. Et quand Dieu l'a rejeté, Samuel a compris le désastre que cela pouvait produire, comme Ozias, comme du temps d'Ozias, et il s'est mis à pleurer. Et à un moment donné, il lui dit, mais quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Remplis ta corne d'huile et va. Et je crois que nous ne sommes pas là pour pleurer, à moins que nous en ayons besoin de pleurer sur notre péché. Parce que ça fait pas de mal de pleurer sur son péché. Mais Seigneur, c'est vrai, je suis qu'un égoïste, moi aussi. Je n'ai peut-être pas la trempe de Saül, mais je ne pense qu'à moi. C'est moi, ma maison, ma bagnole, mes gosses, c'est mon travail et l'Église, si je le tends. Je crois que qui que nous soyons, c'est Dieu qui doit être en premier. Un président de la République serait chrétien ou une femme de ménage, c'est exactement pareil. C'est Dieu qui doit être en premier. Vous pouvez le tordre comme vous voulez. C'est Dieu qui doit être en premier quand on s'est converti. Et après, on fait ce que Dieu nous demande. Alors, il faut que nous réagissions. Je vous ai parlé de Groyer parce que c'est vrai, hier, souvent, ça m'est revenu. Est-ce que le Seigneur voulait que vous entendiez ce témoignage? Ce n'est pas pour parler de moi, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Avec les chrétiens qui en avaient marre, qui en avaient assez de voir leur église végéter et qui ont commencé à dire, voilà, et bien à la place d'être aidés par la mission intérieure, par la caisse de la mission intérieure, eh bien on va commencer à donner. Et ils ont donné. Et je peux vous dire que même mon salaire, le trésorier, 3 mois après, il m'a dit, monsieur Gault, on peut vous augmenter de 1500 francs. Je dis, mais merci Seigneur. Mais moi, ce qui me réjouissait, c'est de commencer à voir des hommes et des femmes pleurer sur leurs péchés. Est-ce que vous voulez voir ça, mes frères et sœurs? Vous croyez qu'on va voir ça en se croisant les bras, en disant, moi, la réunion de prière, mais moi, la prière, je n'ai pas le temps, je suis crevé, je ne peux pas aller à la réunion de prière. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu est en premier dans votre vie? Est-ce que Dieu est en premier dans la mienne? Nous allons prendre la Sainte Cène. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion bénie pour plusieurs? Seigneur, il faut que je retrouve le feu du premier amour. Il faut que je retrouve le feu du premier amour. Il faut que je retrouve ce zèle. Il faut que je retrouve le zèle de ta maison, que ce soit une maison de prière. Regardez encore cet exemple d'Apollos, d'Actes au chapitre 18, l'exemple d'Apollos. Regardez, cet homme qui était fervent d'esprit, versé dans les Écritures, éloquent. Vous voyez, je parlais de l'éloquence tout à l'heure, mais ça ne suffit pas, la preuve. Actes 18, 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. À nous, aujourd'hui, ça nous suffirait, ça. On dit, oulala, c'est le genre de gars qu'il nous faut. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, dont un couple, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et quand vous lisez la suite, Apollos est parti à Corinthe et vous allez voir le travail que cet homme a pu faire. Il n'a pas dit à Aquila et à, comment dirais-je, à Priscille et Aquila, il n'a pas dit, non mais écoutez, vous avez rien, vous. Ils avaient tout, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et cet homme, éloquent, fervent d'esprit, intelligent, versé dans les Écritures, vous voyez, quand on est humble, et bien il a accepté de partir avec ce couple pour avoir la vie de l'esprit. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas où nous en sommes. Êtes-vous éloquent? Ne l'êtes-vous pas? C'est pas grave. Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction. Le problème, il n'est pas dans l'instruction, dans l'éloquence. Le problème, il est dans le renoncement et dans l'obéissance. Seigneur, je vais t'obéir. Voilà, tu vas vraiment passer en premier. Il y a des choses que Dieu va vous demander. Il y a des choses que Dieu va vous demander à vous. Il y a Dieu va vous éprouver. Les hommes que Dieu va appeler, les femmes également, Dieu va vous éprouver. Parce que vous savez, la loi du royaume, une des lois, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de plus grandes. Et de toute façon, il n'est même pas question de vouloir de grandes choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aussi, ça partirait déjà d'un mauvais état d'esprit. Seigneur, il n'est pas question de faire de grandes choses ou de petites. Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Et je vais le faire consciencieusement. Tu vas me montrer quelle est ma place. Le lundi, est-ce qu'il faut que je fasse le culte avec ma femme et mes enfants? Le mardi soir, est-ce que c'est ma place d'aller jeûner, prier pour combattre car les ténèbres s'épaississent? Le jour vient où personne ne peut travailler. Est-ce que c'est ma place d'aller dans une église pour supplier Dieu que des hommes et des femmes soient sauvés? Est-ce que c'est ma place le jeudi après-midi d'aller soutenir, d'aller encourager? Est-ce que c'est ma place le samedi soir, les jeunes, pour accueillir les nouveaux et inviter des nouveaux? Je crois qu'il y a chacun doit se poser la question, même des enfants qui sont parmi nous, vous pouvez déjà vous poser certaines questions. Et chacun doit dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis en train de le faire et j'espère que vous le comprenez. Et je pense que c'est important, je suis en train de le faire. Comment je vais mieux travailler pour former ces anciens, ces prédicateurs? J'ai pensé, j'ai proposé, c'est une proposition, par exemple le jeudi de 7 à 8. Mais je crois que ça serait une bonne chose. Est-ce qu'on peut renoncer? Ah non, moi j'ai pas le temps. Écoutez, je crois qu'il faut, fermer la bouche à l'ennemi, vraiment. Et que le Seigneur nous montre à chacun, car ce que Dieu nous demande, je l'ai dit souvent, on a le temps de le faire. Est-ce que c'est vrai? Quand j'entends des gens qui se parlent en langue, qui me disent « moi, je n'ai pas le temps », je me demande qu'est-ce que c'est ce baptême du Saint-Esprit. Je vous le dis franchement, je le dis mal, très mal. Mais moi, je me pose la question. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, je crois que notre priorité, c'est l'œuvre de Dieu. On l'a lu, voyez Apollos, il a fallu plus loin dans le Saint-Esprit, etc. Rempli du Saint-Esprit. On a choisi des hommes, même pour l'étable. Voyez. Alors, si pour l'étable, il faut des hommes remplis du Saint-Esprit, pleins de foi et de sagesse, alors à combien plus forte raison pour apporter la parole de Dieu? Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que vous allez y perdre? Est-ce que quelqu'un pourrait se lever et dire, mais monsieur, on va perdre? Vous rappelez le gars qui avait vu une perle de Grand Prix dans un champ? Il a tout vendu, tout vendu pour pouvoir acquérir la paire de Grand Prix. Vous savez qui c'est la paire de Grand Prix? Est-ce qu'il était plus riche avant ou après? Mes frères et sœurs, vous croyez que vous allez perdre en revenant à Dieu? Vous croyez que vous allez perdre en renonçant à vous-même? Quand on est rentré dans le ministère, combien de fois, je me rappelle mon frère, il m'a dit, mais tu n'auras jamais rien, Gérard. Tu vas être pasteur, parce que lui, c'est vrai qu'il vit dans l'aisance. Il me dit, mais Gérard, t'auras rien. les pasteurs, ils ont rien.
Je dis, mais ça m'est égal. J'avais quand même compris que ça venait pas de Dieu, ça.
Je crois que quand on sert Dieu, on a ce qu'il faut. Et Dieu peut nous bénir plus que ce qu'on pense. Et le problème, il n'est pas dans le calcul. Ah tiens, il a dit ça. Tiens, tiens. Non, il n'y a pas de calcul avec Dieu. S'il y en a un, je calcule la dépense, je vais renoncer à moi-même. C'est vrai que ce n'est pas facile de se garer. Mais mes frères et sœurs, les jeunes, écoutez, je vous le dis de la part de Dieu, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a des jeunes, si vous mouriez ce soir, vous iriez en enfer. Vous n'avez aucune communion avec Dieu. Et vous êtes en danger. Et si moi je ne vous le dis pas, ce n'est pas la boulangère qui vous le dira dans 2 heures. Et je dois vous supplier. L'apôtre Paul l'a fait. Pourquoi ? Mais parce que c'est archi urgent, la réconciliation avec Dieu. C'est archi urgent. Vous vous rendez compte, si vous êtes là, vous dites, c'est vrai, ce matin, il se démène. Mais ce n'est pas ça. Je suis en train de vous expliquer que Dieu a une œuvre à faire, une grande œuvre à faire, que Dieu nous dit, remplis ta corne et va, et qu'il faut que nous passions par une vraie repentance, par une vraie consécration, et ça sera quelque chose de joyeux. On n'a rien à perdre à revenir au pied de la croix. On n'a rien à perdre à se repentir, à s'humilier, à dire, Seigneur, je reviens à toi. Oui, je veux que tu me montres. La Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et le Seigneur vous montrera. Je reviens à Groyer. J'avais soupçonné, vite fait, que ces chrétiens allaient voir quelque chose se passer. Et on a gagné une âme. Et ils venaient, ils revenaient le dimanche après-midi. Et certains habitaient loin. Et ils revenaient. Et ils m'ont aidé dans l'accueil parce que tout d'un coup, il y avait du monde. Mais est-ce que ça valait la peine? Des fois, on restait jusqu'à minuit à genoux à prier avec des chrétiens, des nouveaux, qui étaient dans le désarroi. Mais je garde un souvenir d'une fatigue, c'est vrai. Mais quelle joie, quand on voit le résultat. On n'est pas prêt à faire un peu de fatigue pour aller au ski? On n'est pas prêt à faire 2 heures de route, à un petit peu se fatiguer sur les pentes? Est-ce qu'on ne peut pas passer 1/2 heure avec quelqu'un après une réunion pour prier avec lui dans une pièce à côté si c'est nécessaire? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il veut bénir l'Église. Et il ne la bénira pas avec des bénis, bénis, bénis. Il la bénira avec des hommes et des femmes qui se tiendront devant sa face et qui diront, Seigneur Jésus, montre-moi la voie. Je sais déjà certaines choses dans mon foyer. Est-ce que vous priez avec vos enfants? Ce sont des choses déjà évidentes. Est-ce que Seigneur, je fais ce que tu me... Vous avez vu, rien qu'avec les dîmes, tout le monde ne la donne pas. Mais regardez, déjà avec la dîme de tout ce qui la donne, tout ce qu'on fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, ça c'est collectif. Mais là, je vous en supplie, individuellement, sondons nos cœurs, s'il vous plaît. On se recueille quelques instants? Ouais. Voilà. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez choisir des frères. Restons recueillis, répondons de grâce, répondez chacun, répondez à cette prédication. Ne pensez pas à celui qui est assis à côté de vous ou derrière. Répondez à cette prédication. Où en suis-je? Où en suis-je de l'abnégation? Si je devais mourir ce soir, est-ce que je partirais dans l'éternité? Est-ce que c'est moi, ce serviteur, cette servante qui enfouit le talent? Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui laisse les occupations de la terre enterrer ce talent? Oh, pardonne-moi, Jésus. Demandez-lui dans votre cœur pardon. Il va vous montrer. Nous avons un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Il est sur le trône de la grâce. Et ce matin, il supplie l'Église. Vous entendez? Le Dieu du ciel. Ce n'était pas Paul qui suppliait les Corinthiens. C'est Dieu qui suppliait. Dieu vous supplie, les jeunes garçons, les jeunes filles, de chercher à être remplis de foi, de sagesse, du Saint-Esprit. Le Seigneur vous supplie de renoncer à vos activités mondaines, inutiles, pour que vous serviez le Dieu vivant. Il y a des veuves, des églises veuves. Qui se lèvera? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je, dit Jésus-Christ ce matin à cette église? Qui marchera devant nous, dit la Trinité? Qui marchera devant nous? Qui? Qui ce matin va se dire, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de revenir. J'ai honte de tout ce temps que je passe devant la télé, devant Internet. Ça m'a détruit. Qui ce matin veut prendre le pain et le vin dans la victoire? Qui veut faire comme Samuel, qui s'est levé? Car si les rois meurent, si les rois chutent, Dieu, lui, ne chute pas. Dieu, il est vivant. Et même si les prophètes pleurent, Dieu, il a un plan. Et Samuel, il pleurait parce qu'il regardait à Saül. Et si vous regardez, bien sûr, aux églises, il y a de quoi pleurer. Mais nous devons terminer cette réunion en regardant à Jésus, qui vous dit, remplissez votre corne, renoncez à vous-même. Renoncez, car sans l'abnégation, vous le savez, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, et même à sa propre vie, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, et même à sa propre vie. Il faut renoncer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de sa femme, de son mari, de ses enfants, mais il faut que ça soit en second, tout ça.